Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à tous. La province du Kasaï peut désormais pousser un ouf de soulagement. La République démocratique du Congo a déclaré aujourd'hui terminer l'épidémie d'Ebola qui a sévi plusieurs mois dans la zone de santé de Boulapé. Dans ce journal, nous parlerons également de la journée mondiale de lutte contre le sida commémorée aujourd'hui. Plus de 200 familles de pêcheurs de Mwanda dans la province du Congo central vivent des jours noirs depuis plusieurs mois. Difficultés de vie quotidienne et leurs enfants désormais non scolarisés. Ils lancent un SOS à toute oreille attentive des autorités du pays. La République démocratique du Congo entérine cette semaine l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis. Le président Félix Tshisekedi qui sera en personne. Et dans ce journal, le porte-parole du gouvernement nous en parle dans un instant. Fin de l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Boulapé, dans la province du Kasaï. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Santé selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. Aucun nouveau cas n'a été signalé au cours des 42 derniers jours depuis la guérison du dernier patient le 19 octobre. Les autorités considèrent désormais que l'épidémie est terminée. Selon l'OMS, la riposte rapide et coordonnée du ministre de la Santé, appuyé par l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs partenaires, a été déterminante pour freiner la propagation du virus dans cette zone rurale, difficile d'accès aux infrastructures routières et aux télécommunications. L'épidémie aura touché plus de 60 personnes et fait 45 décès. Parlons à présent de la journée mondiale de lutte contre le sida commémorée aujourd'hui dans le monde entier. À Beni en RDC, les professionnels de la santé encouragent la population à se faire dépister régulièrement pour connaître son statut sérologique. Ils recommandent également aux personnes déjà affectées de prendre régulièrement les antirétroviraux pour renforcer leur immunité et limiter ainsi la transmission de la maladie en cas de rapport sexuel non protégé. Le docteur Nikèze Maté, coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH, antenne de Beni Boutembo, explique ici au micro de Marc Marofimbo.
Vous savez que la dangerosité du virus, c'est le fait qu'il soit capable de se multiplier dans le corps de la PVV. Si le virus ne se multiplie pas, ça signifie qu'à un certain moment, le corps humain va pouvoir l'éliminer. Alors, les médicaments que nous donnons, ce sont les antirétroviraux, empêchent la multiplication du virus. Et aussi longtemps que vous prenez les antirétroviraux, cet empêchement continue. Et à ce moment-là, le virus ne s'exprime pas, il ne se multiplie pas. Vous aurez vos globules blancs intacts, parce que le virus n'arrive pas à les parasiter et à se multiplier. Alors c'est pour cette raison-là que nous faisons beaucoup d'efforts pour que la personne vivant avec le VIH puisse être en permanence en contact avec les ARV. S'il absorbe les ARV en permanence, un comprimé par jour, sa dose journalière, tout le temps que cela fera, cette personne ne pourra pas contaminer, cette personne ne pourra pas souffrir du VIH, ses anticorps, ses globules blancs seront restés intacts et à ce moment-là, il peut lutter efficacement contre les autres agresseurs.
Entre-temps, dans la province du Bazouélé, la prévalence du sida est évaluée actuellement à 1,7%, bien que légèrement en baisse. Cette entité figure parmi les 10 provinces dont le taux de prévalence demeure supérieur à 1% en RDC. C'est ce que révèle le bureau provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida dans la province. Celle-ci considère la situation de préoccupante en raison de certains facteurs, notamment l'existence de plus de 150 foyers miniers d'or et de diamants et la présence des professionnels de sexe, le partage des frontières avec le Haut-Ouélé dont la prévalence est estimée à 7,1%, la République centrafricaine 3,8% ainsi que le Soudan du Sud 2,6% exacerbe davantage le risque de contamination. En vue de lutter contre cette pandémie, le secrétaire exécutif provincial du PNMLS dans le Bazouélé formule quelques recommandations notamment au gouvernement. Fabrice Denangoui dans ses propos sélectionnés par Jacques Mukonkole.
au gouvernement central d'orienter les partenaires pour accompagner les activités de sensibilisation, de dépistage des adolescents et surtout la prise en charge des adolescents et jeunes filles enceintes VIH et positives. Implanter les laboratoires pour les personnes vivant avec le VIH et chercher à réorganiser les structures de l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH et SIDA ICOPLUS. Et enfin, chercher à apporter un appui nutritionnel au PVVH à travers la division des affaires sociales et actions humanitaires. Notre vision pour la Journée mondiale du SIDA 2025 est de garantir un accès équitable, durable et de qualité aux services de prévention, de dépistage, de traitement et de soutien pour toutes les populations sans discrimination afin d'éliminer le SIDA comme menace de santé publique en RDC d'ici 2030.
Et puis, dans la province du Sankuru, les activités de la mutuelle agréée de santé des enseignants ont été inaugurées aujourd'hui lundi. C'était devant plusieurs autorités scolaires, plus de 12 000 enseignants titulaires et 12 000 autres personnes vivant avec handicap seront prises en charge par cette mutuelle de santé agréée. Explication avec Esther Ndalafina.
Kacheta adifueta diakondo pesha balongeshi mkome kila mujimu wakondo pesha balongeshi bonso wajibangi shabwani bangata bujitubu wabu.
Nous reviendrons sur cet élément. C'était notre collègue Esther Ndalafina qui donnait plutôt la version en Chiluba de cette même actualité. Plus de 200 familles de pêcheurs de Mwanda au Congo central vivent des jours noirs depuis plusieurs mois, difficultés de vie quotidienne et leurs enfants désormais non scolarisés. Ils lancent un SOS à toute oreille attentive des autorités du pays. Nana Plurich Mambou.
Selon Martin Kula, président des pêcheurs exerçant dans les îlots de Kimwabi en territoire de Mwanda, les matériels confisqués par la marine angolaise comprennent 23 pirogues, 11 moteurs hors bord, 114 téléphones portables, 11 filets ainsi que 175 pagailles. Ces biens ont été saisis le 26 juin dernier lors de l'arrestation des 245 pêcheurs accusés d'avoir violé les limites des eaux territoriales angolaises. Les pêcheurs ont été refoulés plusieurs jours plus tard grâce à l'intervention des autorités congolaises. Ces responsables affirment que depuis la confiscation de ces outils, la souffrance s'est installée sur les sites. Les enfants ne sont plus scolarisés et l'insécurité règne. Les activités de pêche sont à l'arrêt alors que ces sites approvisionnent habituellement les commerçants du Congo central et de Kinshasa en poissons fumés. Les paniers de la ménagère en pâtissent également. À Matadi par exemple, le poisson fumé de Kimwabi est devenu excessivement cher. En manger relève désormais d'un luxe que peu de Matadiens peuvent s'offrir. Matadi, Nana Plirish Mambu, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, le trafic est interrompu entre plusieurs entités de la zone et la ville de Bunia en cause l'affaissement du pont Nizi survenu le week-end dernier au passage d'un camion chargé de marchandises. Cette situation perturbe déjà profondément le quotidien des populations qui constatent une hausse des prix de nombreux produits sur les marchés, témoignent plusieurs riverains. Le point avec Jean-Claude Loki.
Selon Jean-Pierre Bikili Sende, député provincial élu du territoire de Djougou, l'axe Iga-Barrière-Mongualou constitue la principale voie d'acheminement des produits de première nécessité. L'effondrement du pont provoque déjà une flambée des prix, certains articles devenant rares sur le marché.
À titre d'exemple, le carburant 20 litres qui coûtait il n'y a pas longtemps dans les 60-70 000 francs congolais, actuellement c'est dans les 120 000 francs congolais. Et le sac de riz de 25 kilos qui coûtait dans les 65 75 000, actuellement c'est dans les 100 000, 110 000 francs congolais. Donc,
plusieurs acteurs de la société civile expriment également leurs inquiétudes, rappelant que cette zone reste sous la menace constante des groupes armés. Une préoccupation partagée par le chef de la chefferie des Mambisa, Baoudjo Bandinga.
Bon, sur le plan sécuritaire, vraiment, les interventions comme telles des militaires directement là, ça ne peut pas avoir lieu quand il y a par exemple du rangement. Souvent on fait appel aux militaires, mais comme les poids coupés, là, ça risque de retarder les opérations militaires.
Tout en appelant à la réhabilitation urgente du pont Nizi, de nombreuses voix demandent aux autorités de remettre en état les routes secondaires afin d'assurer le ravitaillement de cette région en produits essentiels. Bounia, Jean-Claude Luc. Kanyoki, dit Radio Kapi.
Le mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha en sigle, section du Kasaï central, a lancé samedi à Kananga une campagne dénommée Salongo, notre devoir citoyen. Cette campagne est continuelle et se déroule chaque samedi de la semaine. Elle vise à sensibiliser la population sur la citoyenneté responsable et la lutte contre l'insalubrité sur la ville. Le reportage est de André Katende.
Avec des mégaphones, les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha section du Kasaï central, sensibilisent la population de la ville de Kananga sur la citoyenneté responsable. Pour cette première journée, ils sont d'abord passés au marché Kamaï où ils ont exécuté les travaux d'assainissement avant d'aller sur différentes rues de la ville pour sensibiliser ceux qui font le marché pirate à rejoindre différents marchés. D'après Ben Kapena, militant de la Lucha que nous avons interviewé, l'objectif est d'éveiller la conscience de la population sur la vraie citoyenneté et lutter contre l'insalubrité ainsi que le marché pirate.
Cette campagne marque une nouvelle étape dans la lutte contre l'insalubrité qui gagne du terrain dans la ville de Kananga. Nous pensons que les salons demeurent l'unique voie durable pour combattre l'insalubrité et restaurer un environnement sain pour tous.
La campagne Salongo Notre Devoir Citoyen de la Lucha vient en appui à l'opération Libérer les Trottoirs lancée à Kananga par le gouverneur des provinces il y a une semaine et l'opération Ville Propre de la mairie. Kananga, André Katindengala Moulumé, Radio Kapi.
Ici, dans la capitale congolaise, Kinshasa, les mototaxis restent l'un des moyens de transport les plus rapides pour échapper aux embouteillages. Mais de plus en plus, des témoignages de femmes et de jeunes filles victimes de harcèlement sur les mototaxis se multiplient entre gestes déplacés et paroles obscènes. Certaines passagères disent vivre un véritable calvaire. Suivons plus tôt.
Les mototaxis prennent 2 clients au maximum. Les femmes occupent généralement la position du milieu, entre le conducteur et les copassagers. Mais pour de nombreuses Kinoises, chaque trajet peut devenir un moment de tension et d'inquiétude. Une victime qui a requis l'anonymat.
Nous étions à deux avec un monsieur derrière. Le monsieur a commencé à me bousculer. Je lui ai dit, tu veux quoi? Mais il continuait. J'ai dit au motard, moi je ne supporte pas. Soit je descends ou soit le monsieur puisse descendre. Quand il s'est arrêté, le monsieur est descendu. Il avait déjà même éjaculé.
Son histoire n'est pas isolée. Certains motards eux-mêmes reconnaissent l'existence du problème. Patrick Nkosi.
Nous rencontrons des cas pareils. La cliente peut te dire, chauffeur, je veux descendre car je ne supporte pas ce que fait cet homme. Dans ce cas, je fais descendre l'homme et il me paye mon argent.
Pour comprendre ces dérives, les spécialistes évoquent un mélange d'implosivité, des stress urbains et surtout d'impunité. Médecin Olivier Kadima.
Le phénomène peut s'expliquer entre autres des facteurs psychologiques, psychiatriques, mais tout ceci peut être influencé par un environnement, l'agression est trop minimisé.
Les associations féminines appellent donc à des campagnes de sensibilisation ciblées sur le passager masculin qui utilise les motos à Kinshasa.
Un reportage signé Enoch Matono. Le ministère de l'Éducation nationale a doté au moins 2000 bancs pupitres aux écoles publiques de la province du Kwango. Selon un communiqué de ce ministère parvenu aujourd'hui à Radio Okapi, ces kits scolaires ont été livrés en pièces détachées depuis la ville de Kenge vers différents territoires du Kwango. Cette dotation s'inscrit dans le cadre d'un programme du gouvernement visant à renforcer l'environnement d'apprentissage dans les écoles de cette province, Blaise Ndongala.
Les écoles publiques de Kenge 1 et celles des territoires environnants ont reçu 1478 bancs, tandis que celles de Kasongolunda en ont bénéficié de 168. Selon les mêmes communiqués, 200 bancs ont été transférés à Bukangalonjo en dérotation et 400 autres supplémentaires sont en cours d'acheminement vers Fechi. La même source rapporte que ces équipements scolaires étaient entreposés depuis plusieurs mois dans l'enceinte de la procure, siège de la Caritas à Kenge. Le gouvernement provincial du Congo, chargé d'assurer les redistributions, avait procédé au démontage des bancs afin de faciliter leur transport. Toutefois, cette opération a entraîné un ralentissement dans leur acheminement nécessitant une intervention urgente du ministère des tutelles pour garantir la continuité et l'efficacité du processus. Le ministère de l'Éducation nationale réaffirme ainsi son engagement à veiller à la bonne exécution de toutes les opérations contribuant à l'amélioration des conditions d'apprentissage et à la promotion d'une citoyenneté responsable dans cette partie du pays.
Actualité internationale.
À l'étranger donc, l'opposant camerounais Anissé Ekane est décédé hier nuit, a-t-on appris ce matin de ses avocats et de sa famille. Le président du parti politique Manidem, Anissé Ekane, avait été interpellé le 24 octobre dernier à Douala et était depuis en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, la capitale. Le pape Léon XIV est au Liban depuis hier, un pays profondément marqué par la guerre et la crise. Il a été reçu hier à son arrivée au palais de Babda par le président Joseph Aoun, le chef du parlement, mais aussi le premier ministre. Une séquence politique devant laquelle il a insisté sur la nécessité d'un État qui assure la défense du bien commun et l'avenir de la jeunesse.
L'invité.
Le président de la RDC se rend à Washington pour entériner l'accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Dans un entretien exclusif accordé samedi à Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement a indiqué que ce déplacement de Félix Tshisekedi témoigne une fois de plus de la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie est du pays et de la région. Écoutons Patrick Muyaya dans cet entretien avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur Ndongala.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, annonce son départ pour Washington afin d'entériner l'accord de Washington, mais sur le terrain des hostilités, la situation s'enlise. Quelle analyse faites-vous de cet engagement de Kinshasa?
Écoutez, le président de la République, depuis le premier jour où il est arrivé aux responsabilités, s'était engagé pour la paix. Et vous savez qu'avec l'attitude inutilement belliqueuse du Rwanda, avec les conséquences qu'il y a sur le terrain, nous étions engagés dans un processus de paix qui a capoté du fait de l'absence du président rwandais à Luanda. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2024. Par la suite, il y a eu des relais, des initiatives qui ont été prises notamment au niveau de Doha et de Washington. Et dans ces cadres, il y a plusieurs documents que nous avons préparés, notamment la déclaration de principe qui a été signée en avril, mais puis plus tard, le 27 juin, nous avons signé un accord. C'est dans l'ordre normal du gouvernement américain, à la suite de la signature de cet accord faite par les ministres des Affaires étrangères, d'inviter les chefs d'État pour entérinement. Et donc, le président de la République va faire sa part dans le cadre de son engagement pour le retour de la paix. Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, évidemment, nous connaissons la nature belliqueuse du père, le Rwanda, et du fils, le M23, mais nous avons un engagement, notamment en face des différents médiateurs américains, spécifiquement parce qu'il s'agit de Washington. Nous allons répondre à notre engagement pour que nous puissions donner une chance pour le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans cette partie de notre pays.
Par rapport à l'accord d'intégration régionale, comment comprenez-vous la phrase du chef de l'État, je cite, « Ils nous ont poignardé dans les dos en 2022 ».
Parce que le président de la République, je le disais tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, la première chose qu'il a faite, c'est de faire le tour de tous nos pays voisins, où il a eu évidemment l'occasion de rencontrer tous les homologues et de penser qu'on pouvait ouvrir un chapitre de paix dans la région. Et c'était un engagement qui était clair, non pas parce que le président de la République ne connaissait pas les intentions, notamment celles du Rwanda, mais parce qu'il a pensé en signe de grandeur que nous devons regarder comment nous faisons la paix pour que nos populations qui commercent tous les jours puissent commercer dans un cadre apaisé. C'est aussi dans cet esprit-là que nous avons adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est pour que nous puissions voir comment on brise les barrières ou on crée un environnement de facilité pour nos hommes d'affaires dans le cadre du commerce transfrontalier qu'ils font avec les pays de cette partie de la région. Et donc, c'est la suite justement logique de cette position du président de la République qui se manifeste à travers aujourd'hui la création du cadre d'intégration économique régionale. Ici, je voudrais rappeler que les discussions de Washington ont porté principalement sur deux questions. La sécurité d'une part et le retour, l'aide d'intégration économique d'autre part. Et nous, nous avons dit dans les documents finaux qui a été paraffé par nos équipes et qui crée ces cadres d'intégration économique régionale que nous ne pourrons véritablement nous tourner vers la paix, vers plus d'économie que lorsque la paix sera restaurée et la paix passe pour nous par le retrait de troupes rwandaises et la cessation de tout soutien au groupe du M23.
À quelques heures de l'entérinement de l'accord de Washington par les chefs de l'État, monsieur les ministres, avez-vous un message à lancer à la population de l'Est en particulier et puis à toute la population congolaise en général?
Nous voulons d'abord lancer un message de compassion, de soutien et de solidarité et de rappeler que tous les jours, toutes les semaines, nous suivons de près la situation dans les parties du pays qui sont sous occupées. C'est pour ça que rapidement, le président de la République avait désigné un gouverneur militaire qui siège aujourd'hui à Beni, qui suit spécifiquement la situation dans les parties occupées dans la province du Nord Kivu et un gouverneur dans la province du Sud Kivu basé à Uvira qui lui à son tour suit la situation. Parce que nous avons besoin d'être sûr que quotidien nous documentons et nous intervenons pour les problèmes les plus urgents de nos populations. Et que la signature ou que les déplacements que le président de la République va effectuer à Washington s'est fait dans le strict objectif de répondre à l'impératif rapide de restaurer la paix et la sécurité. Je voudrais aussi exhorter nos populations à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation qui sont tramées par le père et les fils, le Rwanda et les M23. Vous savez que nous dénonçons souvent ce qu'on appelle le poison rwandais, parce qu'il y a toujours un venin de la division, un venin de la confusion qu'on veut constamment inoculer dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République. C'est pour ça que dans le cadre de la campagne congolaise Téléma, entre autres, nous continuons à appeler notre population à la vigilance et à la mobilisation pour être sûr que nous avons les blocs nécessaires qui nous permettent de faire face à cette épreuve pour récupérer les parties du territoire occupé et pour la restauration de la paix.
Messieurs les ministres, nous vous disons merci.
Merci à vous.